Les séminaires du Collège de France.
De faire des simulations sur des modèles qui sont vraiment gigantesques. Donc on parle de large échelle. Et dans le cadre de ce qu'on appelle les jumeaux numériques aussi, que je vais expliquer un peu plus tard, pour l'industrie. Avant de parler de la technologie elle-même, je vais dire deux, trois mots sur la société. Alors déjà, le domaine dans lequel on travaille, c'est l'énergie de l'industrie. Et on travaille sur les structures. Donc tout ce dont je vais parler, c'est de l'analyse de structure. On calcule les déformations, les stress, etc. On a appelé ça le monitoring de performance structurelle. Donc ça, c'est un peu le nom marketing de notre produit. La société, comme l'a dit Yvon, en fait, elle a commencé à partir de recherches au MIT dans l'équipe du professeur Patera. C'était en 2012 à peu près, avec le papier qui est un peu la base de notre technologie. Et deux des postdocs qui étaient dans ce groupe, en fait, ont créé la société. Donc il y a notamment Fong Huynh, dont vous avez vu le nom dans le papier sur la borne pour les constantes INFSUP. Il y a aussi David Nezevich, qui est aussi auteur de nombreux papiers, et Thomas Laurent, qui était un ancien stagiaire de l'équipe du professeur Patera. Et donc la société a démarré en 2012. Alors le siège est à Lausanne, en Suisse, mais on a encore... David Nezevich qui est à Boston, et donc c'est de là dont vient la société à l'origine. Alors, des exemples de structures pour lesquelles on travaille dans le domaine de l'énergie, si on regarde tout en haut, c'est plutôt des structures qu'on trouve dans les raffineries ou pour l'industrie pétrochimique. Donc, en général, on a des fluides qui sont à haute température dedans, et les charges sur la structure, c'est la pression et la température. Ici en bas, on a plutôt des structures qui se trouvent en mer. Donc là, on a une plateforme. Ici, c'est un énorme navire. Ici, c'est une structure flottante. Ici aussi, une structure flottante. Là, les charges sur ces types de structures, ça vient plutôt des vagues. Et puis aussi, ça peut être des charges statiques qui se trouvent, par exemple, sur ce navire, on a plein de choses qui sont opposées au-dessus et qui créent une charge statique. Ici, c'est des structures de l'industrie minière. Mais donc, voilà, ça vous donne un aperçu un peu des structures sur lesquelles on travaille. Et aussi, pour rendre les choses plus concrètes, je voulais présenter en fait le produit final qu'on vend au client. On appelle ça une dashboard. En fait, c'est simplement une interface web où on présente des indicateurs structurels. Donc, ça peut être des niveaux de stress, ça peut être des indicateurs de fatigue structurelle. Et donc ça donne un aperçu très condensé à l'utilisateur de comment la structure se comporte, comment elle vieillit, etc. Donc en fait, notre utilisateur final, finalement, il ne connaît pas grand-chose aux maths et à la simulation. Ce qu'il veut voir, c'est comment sa structure se comporte au cours du temps. Alors maintenant, je vais revenir au concept de jumeaux numériques. C'est un terme un peu fourre-tout. Alors là, j'ai mis une citation qui vient d'un rapport d'une agence américaine. Donc je vais vous le résumer brièvement. Donc un jumeau numérique, c'est un système virtuel qui réplique un système physique, qui est régulièrement mis à jour avec des données qui viennent du système physique et qui permet de faire des prédictions. Si je m'arrête là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront effectivement c'est ça un jumeau numérique. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent et que la société a découvert de manière assez douloureuse au fil des années, parce qu'on n'arrivait pas à vendre notre produit au client au début, c'est qu'il faut que tout ça, ça informe des décisions qui réalisent de la valeur pour le client. Donc par exemple, si je dis à un client, regardez, moi j'ai un super produit, je peux calculer les stress, les déformations, en fait, dans sa tête, c'est sympa, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Par contre, si je lui dis, je peux démontrer que votre structure, elle peut vieillir encore 10 ans sans problème, elle ne va pas casser, etc. Là, ça commence à leur parler plus, surtout si maintenir une structure pendant 10 ans, ça coûte une certaine somme d'argent. Donc, pour nous, dans notre société, sur quoi on se focalise quand on parle de jumeaux numériques, donc, comme je l'ai déjà dit, on fait surtout de l'analyse structurelle. On utilise nos modèles en opération. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à ce que les éléments finis ont été utilisés pour pendant des nombreuses années. C'était vraiment pour du design. Donc, on faisait des calculs d'éléments finis pour comprendre notre structure avant même de la construire. Là, on parle de structures qui ont déjà été construites et on veut un peu monitorer comment la structure vieillit, comment elle se comporte en fonction des charges. On insiste sur des niveaux de détail vraiment très poussés dans notre société. Donc tout est en 3D et on intègre toutes les données possibles pour vraiment prendre en compte la condition actuelle de la structure. Bien sûr, il faut que les calculs soient rapides, donc ça c'est tout le principe des méthodes de réduction. Parce que en fait, c'est utilisé en opération. Quand on fait du design, on a beaucoup de temps pour faire des calculs avec des supercalculateurs, etc. Là, on n'a pas le temps, il faut qu'on présente les résultats rapidement aux clients. Et point très important sur lequel j'insiste, c'est ces industries, elles sont très très codifiées. Tout est codifié et comme la méthode des éléments finis, en fait, c'est la méthode la plus ancienne, tout est codifié par rapport aux éléments finis jusqu'à la taille de maille qu'il faut utiliser dans certaines situations. Donc si on n'est pas capable avec notre méthode de réduction de dire qu'on fait la même chose que les éléments finis, en gros les gens ne vont jamais nous l'acheter. Donc les estimateurs d'erreur dont Yvon a parlé sont très très importants. Donc, comment on utilise les modèles réduits pour faire des jumeaux numériques? Donc, en particulier dans notre société, on utilise principalement les bases réduites, justement pour la capacité à produire des résultats rapidement. Et on rajoute cette approche par composant ou par décomposition de domaines qui a été brièvement présentée, ce qui permet en fait de regarder des modèles qui sont beaucoup plus grands que si on se concentre sur un seul domaine. Bien sûr, quand on parle de base réduite, on parle de 2DP paramétrés. Donc ces paramètres, ils peuvent prendre des formes différentes. Par exemple, des champs de température ou des défauts dans la structure qui peuvent varier. Ça peut être aussi des projections dans le futur. Donc on peut avoir différents scénarios qu'on veut évaluer qui sont des paramètres du modèle. Et encore une fois, j'insiste, on peut toujours prouver qu'on est très proche de la solution élément fini originale. Et ça, ça nous permet justement de respecter les standards de l'industrie. Et c'est ce que je voulais dire aussi sur ces estimateurs d'erreurs, c'est que ça nous permet de démarquer un peu du machine learning ou des réseaux de neurones qui sont très à la mode maintenant et qui marchent très bien dans plein de situations, mais pour la plupart du temps, on n'est pas capable de certifier la solution. Donc nous, avec nos bases réduites, on a cet avantage qu'on peut vraiment certifier parce que la méthode, en fait, garde la notion de la physique du problème. L'EDP est comprise dans le modèle base réduite, ce qui n'est pas le cas dans un réseau de neurones normal qui est entraîné purement sur des données, à l'exception des PIN, Physically Informed Neural Networks, qui aussi comprennent l'équation dans l'entraînement du modèle. Alors, bon, j'ai mis quelques slides de mathématiques, mais... Yvon m'a mâché tout le travail, donc je vais aller très vite là-dessus. Donc la méthode des bases réduites, c'est une méthode de Galerkin, sauf que en fait, ici on a un espace élément fini avec grand N dimension qui est très grand. En base réduite, on a petit n qui est très petit, et donc c'est ce qui fait que la méthode est rapide. On peut voir ça aussi sous forme de matrice. Donc si on a le système élément fini d'origine, on prend nos vecteurs base réduite qu'on met dans une matrice Z de projection et en fait, on projette notre système, nos matrices, et on obtient le système base réduite avec des matrices vecteurs qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus rapides à résoudre. Alors, des exemples de paramètres pour nos applications. Alors, en haut à gauche, ici, j'ai mis des épaisseurs de plaques qui varient dans une structure. Ça peut être un exemple de paramètre. Ça peut être aussi un changement de géométrie. Ici, on a l'inclinaison d'une structure. Pour les structures qui sont soumises à des hautes températures, on a des distributions de température qui varient dans l'espace. Donc ça aussi, ça peut être un paramètre, parce que la température, en fait, influence beaucoup de choses. Elle influence les propriétés du matériau, elle influence la charge aussi. Quand on a une température qui dilate le matériel, ça crée une charge dans la structure. Ici, c'est un exemple qui est vraiment très intéressant. Donc c'est une structure flottante et... En fait, on a des champs de pression hydrodynamique qui varient au cours du temps. Et l'espace de variabilité est vraiment très, très grand. Donc, en fait, on doit paramétriser cet espace. Alors, encore quelques slides sur la théorie, mais encore une fois, je vais passer très vite. Donc, on cherche à approximer la variété de nos solutions. Ici, je suis dans l'espace élément fini. Et donc, pour faire ça, on prend des snapshots. Et on construit un espace vectoriel à partir de ces snapshots. Donc ça, c'est vraiment l'essence de la méthode base réduite. On peut parler de méthode linéaire, puisqu'on on construit un sous-espace vectoriel. Mais si on prend les méthodes de machine learning en général, c'est pas forcément linéaire, ça peut être aussi non linéaire. On essaie d'approximer la variété directement par d'autres méthodes. Comment on construit cette base réduite? Alors là aussi, Yvon m'a beaucoup mâché le travail. Première méthode, on calcule plein de snapshots. Ensuite, on compresse ça en une base plus petite grâce à la SVD ou la POD. L'autre approche, c'est l'algorithme Glouton, donc, où on a un estimateur d'erreur et on va chercher à chaque itération notre échantillon dans l'espace des paramètres qui est le plus bénéfique pour construire notre base réduite. Visuellement, ça ressemble à ça. Donc, si on est dans le cas, on a deux paramètres, donc un espace à deux dimensions des paramètres. Imaginons qu'on a déjà une base réduite avec quatre vecteurs dedans. Ici, j'ai mon échantillonnage de l'espace des paramètres. En fait, pour chaque échantillon, je vais calculer mon estimateur d'erreur. Et celui qui maximise mon estimateur d'erreur, je vais l'intégrer à ma base réduite. Donc, je vais le sélectionner, je vais calculer un nouveau snapshot. Et donc, maintenant, j'ai une base réduite à 5 vecteurs. Et je continue, etc., etc., jusqu'à ce que j'ai une base réduite suffisante. Et donc, sous certaines hypothèses, donc si l'épaisseur de Kolmogorov diminue de manière exponentielle, on aura la même chose pour notre base réduite construite de cette façon. Alors, pourquoi on veut aller plus loin que la méthode des bases réduites classiques? Il y a quelques limitations. Alors, ça marche très bien pour plein d'EDP différentes. Pour certaines EDP, ça marche moins bien. Quand on a une EDP qui est non linéaire, dans ce cas-là, on utilise encore des méthodes de réduction supplémentaires, comme la méthode IIM, qui, je pense, va être présentée au cours suivant. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Comme on l'a déjà dit, pour que la méthode base réduite marche bien, il faut que l'épaisseur de Kolmogorov soit petite. Sinon, on sait qu'on ne pourra pas faire mieux. Et donc, dernière chose, si on considère qu'un seul domaine, à la fois géométrique et à la fois pour les paramètres, eh ben, si le domaine géométrique est grand ou si le nombre de paramètres est grand, en fait, la méthode des bases réduites va aussi avoir de la peine à converger. Et donc, c'est tout l'intérêt de découper le domaine à la fois géométriquement et à la fois dans l'espace des paramètres. Souvent, les deux sont liés, en fait. Et donc, j'en arrive à la méthode par composant qui est donc à la base de la technologie qu'on commercialise. Donc, cette méthode, elle a été décrite dans un papier de l'équipe du professeur Anthony Patera avec deux de nos fondateurs, Fong Nguyen et David Nezevich. Donc, le papier date de 2012 et en fait, la société a été créée à la suite de ce papier. Donc l'idée, c'est quoi? On prend le maillage de notre structure et on va le découper en composants. Et pour chaque composant, on va calculer une base réduite, ainsi que pour les interfaces entre composants. Donc il y a deux niveaux de base réduite. Il y a les bases réduites à l'intérieur des composants et il y a les bases réduites dans les interfaces entre composants. On a aussi un indicateur d'erreur. Donc Yvon a décrit comment on calcule un estimateur d'erreur pour la base réduite. Là, il faut construire un estimateur d'erreur pour le système complet. Donc, en fait, on combine les estimateurs d'erreur au niveau des composants et des interfaces. On assemble tout ça pour avoir un estimateur d'erreur au niveau du système entier. Et en fait, c'est très important parce que ça nous permet d'automatiser en fait, la construction offline. En fait, dans notre méthode, on a un mix de offline et online. Je vais en parler un peu plus loin. Mais il faut que tout soit automatique, en fait. Parce que nous, une fois qu'on délivre le produit au client, on ne touche plus à rien. Tout doit être automatisé. Autre chose qui est important, c'est que normalement, dans la méthode des bases réduites, quand on calcule les snapshots, il faut faire un calcul élément fini qui peut être coûteux. Et il faut faire le calcul élément fini sur tout le domaine. Là, on parle de domaines qui sont gigantesques. En fait, on ne peut même pas faire le calcul élément fini sur tout le domaine. C'est juste impossible. Et donc, en fait, avec notre méthode par composant, on ne va pas faire le calcul des snapshots sur tout le domaine. On va faire des calculs de snapshots soit par composant ou soit par petit groupe de composants. Donc, avec cette approche, en fait, on évite le coût prohibitif de calculer la solution infinie sur tout le domaine. Alors, je vais essayer d'expliquer rapidement comment l'approche par composant marche. Et je vais prendre un cas très simple. J'ai deux composants avec une interface que je note P. Et je suis dans le cas linéaire. J'ai un problème linéaire. Donc, mon problème élément fini, linéaire, j'ai ma matrice ici, mon vecteur de charge, et ici les inconnus du problème, que j'ai rangé par différents domaines. Donc, grand U, c'est les inconnus de mon problème sur l'interface, U oméga 1, U oméga 2, c'est les inconnus à l'intérieur des composants. Et donc ça, quand je résous par élément fini, la complexité, donc le N calligraphié, c'est le nombre de degrés de liberté de mon problème élément fini. Résoudre une matrice comme ça, en général, comme la matrice est creuse, ça va être N à une puissance qui est compris entre 1 et 2. Alors alpha, on va dire que c'est 0.5 pour faire simple. Mais donc, souvent, en élément fini, on a des matrices creuses, donc on n'a pas ce coût au cube qu'on a avec des matrices denses. En prenant cette matrice, on peut faire des petits, un peu d'algèbre matricielle, enfin de manipulation de matrice, et faire ce qu'on appelle le complément de Schur. Et donc on va réécrire ce système où maintenant l'inconnu, c'est seulement l'inconnu sur mon interface. Et donc on a des nouvelles une nouvelle matrice grand A et un nouvel vecteur de charge grand F qui en fait s'écrivent de cette façon-là. Ce qu'on voit dans ces expressions, c'est que ici on a une inversion de matrice. En fait, ça revient à résoudre un problème élément fini sur le domaine oméga 1, ici à résoudre un problème élément fini sur le domaine oméga 2 ici. Donc en fait, le coût de tout ça, ça va être coût d'un calcul élément fini sur le domaine oméga 1 et sur le domaine oméga 2. Et en plus, je dois faire ça le nombre de fois que j'ai de degrés de liberté sur mon interface, donc NP. Et puis ce système-là, la matrice est pleine, donc c'est NP au cube. Donc ça, c'est le coût total de cette approche, qui en fait, si on regarde, n'est pas vraiment une amélioration par rapport à ça, parce que NP potentiellement peut être assez grand. Donc ce n'est pas extraordinaire. Alors, maintenant, j'en arrive à vraiment la méthode base réduite par composant. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va utiliser les bases réduites pour remplacer les calculs éléments finis sur chaque sous-domaine. Donc, ces deux opérations, en fait, on va les résoudre par base réduite. Et en fait, ça nous permet d'avoir une complexité maintenant en n cube avec n droit, c'est le nombre de bases réduites. Mais on doit encore le faire np fois, parce que ça, np, c'est le nombre de degrés de liberté sur l'interface. Et donc, au total, maintenant, ce qu'on a, c'est ça. Et on voit que ça dépend fortement de NP encore. Et si NP est grand, finalement, même avec les bases réduites à l'intérieur des composants, on n'est quand même encore pas très rapide. Et donc, c'est là où intervient la base réduite sur l'interface. En fait, ça va nous permettre de remplacer NP par un nombre qui est beaucoup plus petit. Et donc, là, j'ai cité un papier donc, qui est arrivé très peu de temps après le premier papier, en 2013. Qui justement regarde comment on peut réduire de manière optimale les degrés de liberté sur les interfaces. Et finalement, on a un estimateur d'erreur qui est basé sur des principes très similaires à ce que Yvon a présenté et ce qu'on fait dans la méthode des éléments finis. Donc on part du résidu. Le coût de cet estimateur, c'est important qu'il soit très faible. Donc dans notre cas, il est en plus négligeable, il n'est même pas équivalent, il est négligeable par rapport au calcul de la solution globale. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je répète parce que c'est important, en fait, c'est vraiment critique pour nous, pour vendre notre produit, pour s'assurer qu'on prédit la même chose qu'on prédirait avec un calcul élément fini. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne cette méthode ? Donc là, je vous présente ce qu'on appelle un FPSO, donc c'est un gros navire mais qui navigue pas en fait, qui reste en place, qui sert à extraire du gaz naturel. Et juste pour vous donner une idée de la taille, ça fait 3 terrains de foot en longueur, d'accord ? Mais malgré tout, on doit utiliser des tailles de mailles qui sont suffisamment petites. Comme je vous l'ai dit, dans les standards de l'industrie, on doit respecter une certaine taille de maille pour certains types de calculs, en particulier les calculs de fatigue. Et donc, au final, on arrive à un modèle, si on devait le résoudre en élément fini, il y aurait plus que 100 millions de degrés de liberté. Donc, je ne sais pas trop si ça vous parle, mais c'est impossible de résoudre un modèle par élément fini comme ça sur un ordinateur normal. Il faudrait un supercalculateur. Et même avec un supercalculateur, je ne sais pas trop combien de temps ça prendrait, mais je pense que ça se compterait facilement en jours plus qu'en heures ou en minutes. Et nous, avec notre méthode, pour un cas de charge, on peut résoudre ça en moins de 10 secondes. Alors, bien sûr, j'ai omis le temps offline de training, mais vu qu'on fait le calcul offline par composant, en fait, c'est des calculs à élément fini finalement qui ne sont pas trop chers, en plus qu'on peut paralléliser sur une architecture de cloud. Donc ce modèle, en fait, pour faire les calculs offline, ça prend moins d'une journée. Et une fois qu'on l'a entraîné, on peut faire plein de calculs online qui coûtent peu cher pour plein de cas de charge différents.
Il y a combien d'éléments, du coup, combien de petits domaines
Les composants, on en a, je crois, dans ce modèle, plusieurs centaines, peut-être 500, je pense, à peu près. Alors maintenant, je vais revenir sur l'estimateur d'erreur et comment on l'utilise, parce que c'est assez important. Et comment, en fait, on l'utilise de manière automatique. Alors, déjà, il y a la phase de calcul offline initiale. Donc, on part de zéro, on a un modèle à entraîner. Donc, on prend des échantillons de paramètres. Alors, ici, j'ai pris l'exemple d'un réacteur qui est soumis à haute température. Donc, ça, c'est des champs de température différents. C'est des paramètres de notre modèle. Donc, on part de ça. Ensuite, pour chaque champ de température, on va calculer la déformation de la structure. Donc ça, c'est nos snapshots, en fait. Mais on le fait que pour des composants individuels ou alors des assemblages de composants. On le fait jamais pour la structure entière. Bon, cette structure, elle est moins grande, donc potentiellement, on pourrait le faire. Mais l'idée de la méthode, c'est ça. On fait jamais un snapshot pour la structure entière. Et donc, on a une approche qui ressemble à l'algorithme Greedy ou Glouton, qui est que, en fait, on va sélectionner en priorité les échantillons de paramètres qui génèrent un estimateur d'erreur qui est élevé. Donc là, par exemple, avant que ce paramètre intègre ma base réduite, on a un estimateur d'erreur qui est élevé. Une fois que je l'ai intégré à ma base réduite, l'estimateur d'erreur est tout petit. Et si on compare avec la solution élément fini originale, on voit que visuellement, il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est la phase d'entraînement initiale. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que le modèle il est déployé chez les clients? Il se peut qu'il y ait une situation, en fait, qui arrive, donc dans ce cas-là, un champ de température qui est très éloigné de notre phase d'entraînement initial. Quelque chose qui n'a pas été échantillonné initialement. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que notre estimateur d'erreur va nous dire « Attendez, il y a un problème. Il faut y remédier. » Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'automatiquement, le solver qui fait le calcul, quand il voit que l'estimateur d'erreur dépasse un certain seuil, il va refaire des calculs éléments finis pour générer des snapshots, réentraîner la base réduite qui va être mise à jour automatiquement. Donc, en fait, le client, il va peut-être voir à ce moment-là, s'il est en train de regarder ce qui se passe, que le calcul est plus lent parce que justement, on a besoin de recréer ces snapshots, de faire des calculs éléments finis. Mais tout est automatisé, ce qui est vraiment important parce que en pratique, dans le monde académique, on peut relancer les simulations quand il y a un problème, quand on voit que l'estimateur d'erreur est trop grand. Mais là, il faut que tout soit automatique. On ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui surveille en permanence. Donc, c'est vraiment très important pour faire que notre produit soit vraiment robuste. Alors, je vais parler aussi d'une technologie qu'on a développée à Axelos qui est assez intéressante. C'est, en fait, on a l'option de combiner à la fois les éléments finis et les bases réduites dans notre approche par composant. Donc, on peut sélectionner des composants dans le modèle. On dit certains composants utilisent les bases réduites, certains composants, on garde les éléments finis classiques. Qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça permet, par exemple, de... dans le cas où on a des non-linéarités qui sont très difficiles, en fait, si ces non-linéarités sont localisées de manière spatiale, on va définir des composants qui contiennent la non-linéarité, et dans ces composants, on va continuer à faire des calculs à éléments finis classiques. Et donc, en fait, on a un résidu qui est décomposé en deux parties. Donc ici, la partie linéaire, base réduite. Ici, la partie non-linéaire en éléments finis. On a une jacobienne qui correspond à ce résidu. Et puis, on peut simplement appliquer une méthode de Newton classique à cette formulation. Et en fait, le couplage est fait par l'intermédiaire d'une matrice de couplage aux interfaces entre les composants. Et donc, un exemple typique pour lequel on utilise ces types d'approches hybrides, c'est le contact. En fait, le contact, c'est une non-linéarité qui est vraiment pas sympa parce qu'elle est discontinue, en fait. Quand il n'y a pas de contact, la force est zéro. Quand il y a un contact, d'un coup, la force prend une valeur élevée. Mais l'avantage, c'est que les zones de contact sont très localisées. Donc ici, on a un modèle de roulement à billes où les billes sont en contact avec le disque interne et externe, et la zone de contact est vraiment très petite. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on définit ces composants qui ressemblent à des croissants de lune un peu. Et dans ces composants, on va utiliser la méthode éléments finis classiques, où on peut faire des calculs non linéaires de contact. Et dans tout le reste de la structure, on utilise les bases réduites pour de l'élasticité linéaire, qui marche très bien en base réduite. Donc j'en ai un peu fini pour la description de la technologie. Combien il me reste de temps? Okay. Et maintenant, je vais vous montrer quelques exemples plus concrets de jumeaux numériques. Alors le premier que j'ai déjà présenté, c'est ce fameux FPSO qui donc fait plus que 100 millions de degrés de liberté. Et donc le jumeau numérique qu'on vend, c'est la combinaison de ce modèle structurel avec des données qui viennent du modèle physique et qu'on intègre dans une visualisation par une interface web où l'utilisateur peut regarder différents indicateurs structurels. Concrètement, ces données, ça ressemble à quoi? Alors, on a des données d'inspection. Principalement, c'est des mesures d'épaisseur de plaques, parce qu'à cause de la corrosion, surtout dans un environnement en mer, l'épaisseur du métal se réduit. On a aussi des données météo qui nous disent quel type de vagues, les directions des vagues, la hauteur de vagues arrivent régulièrement, et donc on adapte les charges qu'on met sur le modèle en fonction. Et donc ça forme ce qu'on appelle le jumeau numérique basé sur la condition réelle de la structure physique. À partir de ça, on peut faire des calculs. Principalement, il y a deux types de calculs qu'on fait. On fait des calculs de résistance aux événements extrêmes. Donc, quand il y a une vague importante qui arrive, il peut y avoir ce qu'on appelle du voilement, voilement ou flambage. En anglais, c'est buckling, qui sont des instabilités de la structure. En fait, les plaques se tordent violemment d'un coup. Et donc il faut des charges vraiment extrêmes pour que ça arrive. Donc on fait des calculs pour vérifier que tout reste en dessous d'un certain seuil. On a aussi des calculs de fatigue. Donc ça, c'est l'évolution de la structure au cours du temps. Même avec des charges qui sont a priori assez faibles, ça crée des cycles de stress dans la structure qui petit à petit peuvent créer des fissures. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on calcule. En plus de ça, pour la fatigue, on doit utiliser des maillages très très fins. Donc on a déjà un maillage qui est gigantesque, mais en plus de ça, ce qu'on fait, c'est on fait un pré-calcul de fatigue, où on identifie quelles zones sont les plus critiques pour la fatigue, et on va encore plus raffiner le maillage pour faire des calculs de fatigue détaillés. Et justement, ce qui est intéressant avec notre approche, c'est que quand on raffine ce maillage, finalement, on n'est pas trop impacté, parce qu'on va le raffiner que sur certains composants, donc on a à recalculer que certains composants. Et on n'a jamais besoin, comme je l'ai dit, de faire le calcul aimant fini sur toute la structure. Alors maintenant, je reviens à ma citation sur c'est quoi un jumeau numérique. Et j'ai insisté sur il faut qu'il y ait une valeur pour le client, parce que jusqu'à présent, j'ai parlé de calcul et de fatigue et de stress. C'est quoi la valeur pour le client? Alors, dans le cas de cette structure, ça peut être de réduire le coût des opérations. Parce que vous imaginez bien que cette structure qui fait 3 terrains de foot, s'il faut l'inspecter régulièrement, ça prend des heures et ça coûte très cher. Enfin, ça prend même des jours et des semaines. Donc en fait, avec nos calculs, on peut identifier les zones critiques, en particulier pour la fatigue. Et donc, on a seulement besoin d'inspecter ces zones critiques pour voir s'il y a une fissure qui est en train de se développer. On peut faire ça avec des méthodes non destructives et vérifier que tout se passe bien. Donc ça, c'est une première valeur pour le client, c'est réduire les coûts de maintenance de la structure. Une autre valeur, c'est d'étendre la durée de vie de la structure. Donc quand la structure est construite, elle est construite pour, disons, 50 ans. Mais en fait, ce qui se passe en pratique, c'est que les opérateurs veulent pouvoir prolonger cette durée de vie. Mais il faut qu'ils puissent démontrer qu'ils peuvent faire ça en sécurité. Donc si on a des calculs très détaillés et qui sont basés sur la condition réelle de la structure, donc, comme je parlais de ces épaisseurs qu'on peut mesurer en fonction de la corrosion, ça permet d'étendre de 5-10 ans la structure. Et donc pour le client, c'est aussi une valeur vraiment importante. Dernier point qui a de la valeur, c'est aussi d'évaluer le risque de manière très rapide. Donc s'il y a un événement qui arrive justement avec ce voilement de plaques, ou alors qu'il y a un impact d'un autre bateau qui tord des plaques, il faut être capable de dire très rapidement, ok, est-ce qu'on bloque tout, est-ce qu'on interrompt toutes les opérations parce qu'il y a un risque, ou est-ce qu'on peut continuer? Donc il faut être capable de refaire tous les calculs dont j'ai parlé avec le nouveau défaut inclus dans la structure. Et donc ça, avec notre approche par composant, c'est très 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 simple. On remplace seulement le composant qui a le défaut. On réentraîne seulement ce composant au niveau des bases réduites. On n'a pas besoin de réentraîner tout le modèle. Et on peut refaire tous les calculs très rapidement et donner une réponse au client. Et donc ça, c'est un peu un aperçu de l'interface web. Donc on peut cliquer sur le modèle sur différents composants. Une fois qu'on a sélectionné un composant, on peut voir les endroits critiques et les valeurs de fatigue. Et donc ça permet d'avoir une vue très rapide de qu'est-ce qui se passe avec la structure. Un autre exemple, alors je ne connais pas le nom de cette structure en français, Steam Methane Reformer, en fait c'est ce qui permet de convertir du méthane en hydrogène. C'est à l'heure actuelle la méthode principale pour produire de l'hydrogène. Bien sûr il y a aussi l'électrolyse de l'eau, mais... jusqu'à présent, c'est quand même la méthode principale pour générer tout l'hydrogène qui est utilisé dans le monde. Et donc, c'est une structure, en fait, où on a le méthane qui s'écoule à travers les tubes. Et ces tubes sont dans un fourneau qui est monté à très haute température, environ 1500 degrés Kelvin dans ces eaux-là. Et en fait, ce qui se passe, quand une structure est à haute température, même si elle est soumise à des charges assez faibles, elle va quand même subir des déformations irréversibles. C'est ce qu'on appelle le fluage en français, ou creep en anglais. Donc même si la structure est dans le domaine élastique, où théoriquement elle doit récupérer sa forme initiale, s'il est soumise à des hautes températures, elle va quand même subir des déformations irréversibles. Alors ce modèle, il est moins imposant que celui que j'ai montré avant, mais il fait quand même 50 millions de degrés de liberté. Par contre, là où il est plus compliqué, c'est qu'on a un matériau qui dépend de la température, qui est non linéaire. Le problème que j'ai présenté avant, c'était une EDP linéaire. Ici, on a une EDP non linéaire. Et donc ça, c'est le genre de résultat qu'on peut présenter. Donc ça, c'est le fluage, le niveau de fluage. Quand le niveau, en fait, c'est un nombre qu'on calcule à chaque point du maillage. Si ce nombre arrive à 1, on considère qu'on a une... En fait, la structure a rompu. Ici, on peut visualiser les stress aussi. Et ça, c'est l'interface web qu'on propose. Donc, on peut voir tous les tubes de manière individuelle. Quand on clique sur un tube, ou alors ici, on peut visualiser où se trouve le niveau de fluage maximum, avoir une liste et aussi l'évolution au cours du temps. Donc, encore une fois... Le client, il n'est pas intéressé vraiment par les simulations en détail. Ce qu'il veut voir, c'est les indices structurels qui l'intéressent et qui sont importants pour prendre des décisions. Donc là, une dernière chose que je voulais présenter. Quelqu'un a une idée de ce que c'est cette structure? Pardon?
Pour une éolienne offshore.
Ah, exactement, exactement. Donc en fait, les éoliennes offshore, on essaie de les pousser de plus en plus loin, parce qu'en fait le vent est de plus en plus stable, plus on va loin, plus on s'éloigne des côtes. Plus le vent est important, plus le vent est stable. Le problème, c'est que le niveau d'eau monte aussi. Et on ne peut plus faire des structures de support qui sont ancrées au sol, on doit faire des structures flottantes. Mais ça donne des structures flottantes qui sont vraiment, vraiment énormes. Donc là, c'est pour avoir une idée un peu de la taille de ces structures. Et il faut savoir que les nouvelles éoliennes, les pales font juste la pale de l'éolienne fait quasiment la taille de la tour Eiffel. Hein. Donc on a vraiment des trucs qui sont gigantesques. Et alors là, je dis que ce n'est pas vraiment un jumeau numérique parce que pour une fois, on utilise pour du design. Donc c'est avant que ce soit construit. Mais notre méthode est très, très intéressante pour les phases de design parce que, en fait, ce qu'on appelle les DLC en anglais, Design Load Case, qui sont des cas de charge pour le design, on doit en considérer une quantité vraiment gigantesque. En fait, on doit considérer des vitesses de vent différentes, des hauteurs de vagues différentes, pour des directions différentes. Donc en fait, c'est de la... quand on combine tout ça, on a 20 000 cas de charge différents à considérer. Il faut aussi considérer quand la turbine, l'éolienne est à l'arrêt, quand elle tourne ou quand elle est à l'arrêt, etc. Enfin, c'est vraiment gigantesque. Et donc, en fait, la méthode des bases réduites, qui à l'origine a été construite pour du multi-requête, là, elle est vraiment parfaite. Alors, le type de charge qu'on a pour cette structure, les charges qui sont intéressantes, alors il y a l'hydrostatique, elle est intéressante parce qu'en fait c'est une charge non linéaire. Quand le flotteur s'incline, on a le niveau d'immersion qui varie et en fait ça produit une charge qui est non linéaire parce qu'en fait les éléments du maillage qui vont subir une pression peuvent changer à tout moment. On a aussi ce qu'on appelle radiation et diffraction. En fait, c'est des calculs de pression hydrodynamique des vagues. En fait, on résout des équations d'onde pour avoir ces pressions, mais on en a vraiment une quantité gigantesque aussi, parce que ça dépend des fréquences de vagues, ça dépend des directions de vagues. Et donc, en fait, on peut écrire une décomposition affine de cette charge, mais la décomposition affine... en fait, est très très grande. Il y a un nombre très grand de composants de la décomposition affine. Et donc, malgré tout, on utilise quand même IIM pour compresser encore plus ce type de charge. Et donc, quand je vous parlais du nombre de simulations, juste pour vous donner une idée, donc, ici, on a sélectionné plus de 1000 cas de charge, donc moins que les 20 000 dont je vous ai parlé, mais qui représentent au niveau de la probabilité que ces cas de charge arrivent quand même la majorité des cas que l'éolienne peut subir. Et chaque cas de charge, en fait, c'est une heure de simulation physique. En fait, c'est des processus temporels. Et en plus, dans nos simulations, on utilise une fréquence de 5 Hz. Donc un cas de charge, en fait, c'est 18 000 pas de temps et 18 000 cas de charge à calculer, en fait. Et donc au total, si je fais le total de tout ça, c'est 24 millions de cas de charge. Donc même si on a un modèle qui là est plus modeste, on a 6 millions de degrés de liberté en élément fini, il faut calculer 24 millions de cas de charge. Donc même en élément fini, c'est possible de le faire sur un ordinateur, parce que un ordinateur normal, parce qu'on n'a pas trop de degrés de liberté, mais en fait il y a tellement de cas de charge que ça prendrait vraiment vraiment très longtemps. Donc avec notre méthode BuzzReddit, on est capable de le faire assez rapidement. Donc un cas de charge avec 18 000 pas de temps, ça prend 2h30. Et comme en plus, on peut lancer ça en parallèle sur nos architectures de cloud, en fait, chaque simulation parmi les 1000 simulations est lancée en parallèle. Et en fait, on peut avoir les résultats en une journée. Et donc ça nous permet d'identifier plusieurs choses, ça permet d'identifier quels cas de charge sont critiques, ça nous permet de faire des calculs de fatigue aussi. Et donc la valeur là pour le client, c'est quand il a une idée d'un design pour un flotteur d'éolienne, il peut vraiment être confiant dans l'intégrité structurelle et en fait enlever du risque dans sa construction. Et on peut imaginer dans le futur aussi d'utiliser ça pour des boucles d'optimisation, puisque notre méthode est capable de faire des calculs de façon assez rapide. On peut intégrer ça à des boucles d'optimisation, alors qu'avec une méthode élément fini classique, ça serait vraiment impossible. En fait, ce que les designers font jusqu'à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont des sous-modèles qui font un élément fini, donc juste une petite partie de la structure qu'ils vont optimiser avec quelques calculs éléments finis, mais il n'y a jamais une vue globale du système. Et avec notre méthode, on peut toujours considérer le modèle dans sa globalité. Alors, un dernier point sur lequel je voulais dire deux, trois mots, c'est quoi un peu la frontière pour Axelos ? Quels sont les problèmes pour lesquels on ne peut pas utiliser les bases réduites ou pour lesquels on peine un peu. Donc les exemples classiques où justement l'épaisseur de Kolmogorov diminue, ne diminue pas vite, c'est quand on a des problèmes de transport ou alors des problèmes d'ondes qui se propagent le long d'un domaine. Alors nous, les exemples qu'on a pour nos applications, typiquement pour le transport, c'est on a des problèmes de mécanique des fluides avec un nombre de Reynolds qui est élevé. Et puis pour les problèmes d'ondes, c'est plutôt une structure qui subit un choc, par exemple, ou alors il y a une variation soudaine de la charge. Ça peut créer une onde qui se propage à travers la structure. On a par exemple étudié des lignes électriques qui sont soutenues par des pylônes. Lorsqu'un pylône chute au sol pendant une tempête, par exemple, en fait, il y a une onde qui va se propager le long des câbles et qui fait ce qu'on appelle un effet de cascade, qui va créer une charge élevé sur le pylône suivant qui va lui-même s'écrouler, etc., etc. Et donc pour ce genre de simulation, en fait, on s'en remet aux éléments finis classiques. Alors pour que la simulation soit possible, on utilise des éléments de poutre qui sont pas chers. Mais donc potentiellement, c'est une avenue pour faire de la recherche et du développement, pour développer les bases réduites ou d'autres méthodes de réduction. Et donc je vais vous montrer un petit exemple. Alors par contre, je vais parler de CFD. De mécanique des fluides. Oups. Donc ça, c'est un exemple sur lequel on a travaillé. En fait, on a deux fluides à température différente qui se mélangent. Et en fait, ça crée des poches de chaud et de froid qui se propagent le long du tube. Et ici, on a la partie solide du tube qui varie... où la température varie de manière beaucoup plus faible. Il y a une espèce de lissage en fait, dû au transfert de chaleur entre le fluide et le solide. Mais on a quand même des variations de température, des alternances de chaud et de froid qui se produisent dans le métal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le métal se dilate, se contracte, se dilate, se contracte. Ça crée des variations de stress qui créent de la fatigue, etc. Et donc, en fait, au bout d'un certain temps, on peut avoir... un tube qui se fracture à cause de cette fatigue. Donc là, on a fait des calculs de fatigue dus à ces cycles de stress. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a plein de situations différentes qui peuvent se produire selon les paramètres en fait, du fluide. On peut avoir le flux de masse, un ratio entre le tube principal et le tube secondaire qui sont différents. Ça produit des patterns de fatigue différents dans le métal. On peut aussi varier le différentiel de température ici entre les deux tubes. Donc, et puis, il peut y avoir encore plus de paramètres, il peut y avoir la géométrie des tubes. Donc c'est vraiment un problème qui a plein de paramètres et qui est très très dur à prédire. Alors ce qui nous sauve un peu dans ce cas-là, c'est que, comme j'ai dit, il y a cet effet de lissage en passant du fluide au tube, et ce qui se passe dans le tube est beaucoup moins chaotique que ce qui se passe dans le fluide. Alors on a des résultats, on a des premiers résultats, mais en utilisant pour le coup des réseaux de neurones. On n'a même pas essayé de faire des bases réduites pour ce type d'application. Mais voilà, c'est un exemple de problème. On n'utilise pas notre méthode de base réduite, qu'on considère un peu comme la frontière de ce qu'on peut faire actuellement. Et voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.